Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Silence en joueur, Juan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de Yon Fury, de The Persistence, de Monster Train, et on finira par Dungeon of the Endless But on Switch, quelques années plus tard, quelques années après sa sortie originelle. Le reste du programme, vous connaissez la chronique de Jérémy Kletskin, qui n'est pas avec nous cette semaine, mais qui reviendra peut-être d'ici la fin de la saison. Le com des coms, etc., etc. Enfin, je dis etc. comme si on avait 12 milliards de rubriques, mais ce n'est pas le cas. Vous connaissez. Et je commence en accueillant non pas mes chroniqueurs Rose favoris, mais mon chroniqueur favori. Parce qu'on va faire une émission en duo. Patrick Elio, bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
Comment ça va?
Ça va, écoute, tranquille.
Ouais, tranquille. En fait, les disponibilités de chacun et chacune ont fait que soit on avait le choix de ne pas faire cette émission, soit on la fait en duo, donc on va la faire en duo. Ça fait longtemps en plus qu'on n'a pas fait une émission à deux. Et puis on avait un programme, on avait des jeux dont il fallait parler, et puis on sait ce que ça donne, hein. Si on reporte de semaine en semaine, et ça finit par tomber dans les oubliettes. Donc là on a quelques petits titres dont on voulait parler, et puis voilà. Et toi t'es toujours... Ça se passe toujours bien. On n'a pas eu l'occasion de se revoir physiquement depuis
un petit moment. C'est vrai. Bon, on va commencer à pouvoir y songer sérieusement, mais c'est encore. On prend notre temps. On en profitera d'autant plus lorsqu'on pourra enregistrer sur un plateau, tout ça, de se revoir. Donc pour l'instant on continue. Puis c'est très bien. Mais comme tu dis, c'est une semaine où on va parler de jeux peut-être de taille un peu plus réduite, mais des jeux de cœur. Ça me fait plaisir d'en parler. Ils sont pas tous parfaits, mais c'est des jeux que ça fait plaisir d'aborder cette semaine, donc c'est cool. Puis c'est une petite bouffée d'air frais dans une semaine un peu compliquée, on va en parler.
Un peu compliquée, et oui, on va en parler. Pour l'actualité, difficile de ne pas réagir parce que ça a touché de manière indirecte, très indirecte. On va pas mettre on va pas faire une hiérarchie évidemment, mais le monde du jeu vidéo, on rappelle le 25 mai 2020 à Minneapolis, c'était le meurtre de George Floyd par un policier blanc lors d'un contrôle par un policier blanc, meurtre qui a donné lieu à plusieurs manifestations, d'abord à Minneapolis et puis ensuite dans toutes les grandes villes aux États-Unis, en France aussi. Il y a quelques jours, on a eu un grand rassemblement lié à Adama Traoré, évidemment, mais aussi qui était en lien avec cette actualité aux États-Unis.
Qui a impacté beaucoup de secteurs. Twitter a réagi face aux déclarations de Trump. On voit une militarisation à Los Angeles qui est assez incroyable quand on a connu cette ville pour l'E3 ou d'autres choses. Il se passe des choses assez flippantes, quoi. Donc, on peut parler. Moi, l'annonce qui a tout de suite eu pas mal de, qui a peut-être le plus fait parler dans le contexte du jeu vidéo. Comme tu disais, attention, on ne hiérarchise pas. Nous, on parle jeu vidéo aujourd'hui, donc évidemment, on se concentre sur l'impact que ça a eu vis-à-vis du monde du jeu vidéo, même si on est sur une problématique un million de fois plus colossale et plus fondamentale. Ce qu'on a vu passer, évidemment, c'était l'impact direct sur les annonces de Sony liées à la PlayStation 5. Quand ça veut pas, ça veut pas. Là, évidemment, il y avait normalement une présentation qui devait se faire aujourd'hui même. On enregistre jeudi. Ça devait être ce soir, je crois, à 22h. Ouais. C'était la présentation de la PlayStation 5 avec un peu plus d'informations sur, a priori, le prix, le positionnement de la console, la stratégie des jeux, etc. évidemment, vu les circonstances, ça ne s'y prêtait pas. Mais Sony a été, je crois, le premier à prendre position sur la situation et dire non, c'est pas le moment. J'ai trouvé que c'était une bonne décision.
C'est aussi intéressant de redonner les mots qu'ils ont utilisés, hein. Donc, en fait, le communiqué de Sony, c'est si nous avons conscience que l'excitation des joueurs du monde entier au moment de découvrir les jeux PS5, nous avons le sentiment que l'heure n'est pas la célébration et pour le moment, nous souhaitons rester en retrait et permettre à des voix plus importantes de se faire entendre. Ça, c'était le communiqué de Sony. Dans la suite, ou à peu près au même moment, hein, il y a Electronic Arts, EA Sports, qui a annoncé le report de l'annonce. Alors bon, enfin, c'est pas un report de jeu, c'est report d'une annonce de la présentation d'un jeu.
Donc, en donnant Madden le titre NFL, du jeu. Donc,
Madden NFL 21. Là, encore une fois, je lis le communiqué, mais nous sommes aux côtés de nos amis, joueurs, collègues et partenaires afro-américains de la communauté noire. Notre attention immédiate se porte sur les actions à entreprendre pour provoquer le changement contre le traitement injuste et la discrimination systémique qui sévit dans la nation et dans notre monde. Et donc, en fait, ça n'a pas été les seuls, hein, et évidemment... Il y a un effet domino qui est réel. C'est clair que si on a quelqu'un comme Sony qui reporte... j'avais parlé du calendrier du mois de juin la semaine dernière, d'ailleurs. J'avais parlé de ce calendrier très chargé en annonces. Donc, c'est vrai qu'à partir du moment
En événement dématérialisé, comme on dit maintenant, lié au virus aussi, qui est toujours planant.
Et à partir du moment où on a une annonce qui est reportée, c'est difficile pour les autres grands acteurs de faire comme si de rien. Après,
je pense que Sony a donné le là, en fait, quelque part, en disant on reporte notre présentation.
Ouais, mais après, alors. Sans vouloir, je n'étais pas chez Sony au moment où ils ont pris cette décision, donc on ne connaît pas l'entièreté, l'ensemble des motivations qui ont précédé cette décision. On sait que, parce que c'est aussi dans un grand mouvement des grandes marques multinationales de l'entertainment, du sport et qui prennent position historiquement qui par rapport à ce genre d'événement, par exemple Nike a été très rapide à réagir suite au meurtre de George Floyd et aux premières manifestations. Les marques de sport, Adidas, Nike, etc. Sony arrive quand même bien après ces acteurs-là. Et puis c'est aussi une communication. Alors c'est l'engagement d'affichage.
C'est toute la subtilité. Hein.
C'est de l'engagement d'affichage. Mais après, on peut faire aussi un parallèle. C'est juste pour mettre les hiérarchies. Par exemple, quand Colin Kaepernick, je sais pas pour ceux qui se souviennent, c'est ce quarterback américain des 49ers qui, au moment de l'hymne américain, mettait un genou à terre pour marquer sa désapprobation et son engagement dans l'antiracisme et contre les violences policières déjà et le racisme aux États-Unis. Et ce Colin Kaepernick, il a été blacklisté après par la NFL. Il a plus de club depuis 2017. Et Nike en a fait un héros de pub. Donc pour les, je crois que c'était l'anniversaire de leur slogan Just Do It. Pour dire que l'engagement de ces marques de sport et Electronic Arts, ils ont continué à faire NFL. Et ils n'ont pas gueulé à ce moment-là. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'engagement de la société, de l'industrie du jeu vidéo. Alors, on va pas le regretter. Hein. Je regrette pas du tout. C'est très bien de reporter ces événements. Il fallait le faire et il y a pas de problème. Alors, dans les types d'événements, on n'a pas fini, mais il y a le PC Gamer Show qui a été annulé.
C'est tout récent.
Sur le communiqué, alors qu'il est, nous souhaitons laisser la place à ceux qui s'élèvent et protestent pour mettre un terme à l'oppression systémique et aux violences policières à l'encontre de la population noire.
Mais là, tu peux plus laisser un événement se faire normalement.
Fortnite vient d'annoncer ce jeudi le report de la du début de la saison 3 et le report de leur prochain événement. Donc voilà, il y a un truc. On peut dire que pour certains, c'est sans doute un engagement de façade et tout ça. Après, c'est vrai que...
Opportunisme ou pas, ça c'est la grande question. Hein.
C'est vrai qu'on aimerait bien... et c'est difficile. C'est difficile aussi d'imaginer ce même type de réaction, par exemple, en France. vis-à-vis de problématiques
qu'on a connues
raciales, ouais. Parce que bon, voilà, la France n'est pas et pas
bien sûr
et pas la dernière pour les,
c'est clair.
Les délits racistes et voilà, on a vu, on en parlait au début de la manifestation en soutien à la famille de d'Adama Traoré, mmh. Qui était une manifestation incroyable ces derniers jours. Mmh. Enfin, voilà, donc on a du mal à imaginer ce genre de mouvement de la part de L'Oréal ou Dassault.
Enfin, voilà, hein,
c'est clairement les multinationales françaises. On a du mal à imaginer que ça puisse avoir lieu. Et donc, on va pas le regretter hein, du tout, et franchement. Mais après, c'est vrai que le jeu vidéo, il faut, et je pense qu'on peut pas terminer cette séquence sans le dire, la représentation des hommes noirs dans le jeu vidéo. C'est pas la situation est pas géniale. On a juste avant l'émission, ouais. Tous les deux, on a fait une sorte de décompte. Alors moi, le héros dont je me souvenais bien, c'est Marcus Holloway de Watch Dogs 2. Et pourquoi est-ce que je m'en souvenais bien, c'est ouais. qu'à l'époque, on a pointé du doigt qu'il s'agissait d'un vrai choix de la part d'Ubisoft de mettre un héros ouais. afro-américain un héros principal unique afro-américain dans un de ces jeux. Alors quand on a fait la liste, on a évidemment trouvé Franklin Clinton donc de GTA V et Lincoln Clay de Mafia 3, sachant que dans Mafia ces 3, deux cas-là spécifiques il s'agit de rôle de gangster, donc c'est aussi un peu particulier. On est quand même dans le trope de l'homme noir, hein, de la représentation de l'homme afro-américain. Donc
cliché qu'on a pu avoir au cinéma.
Exactement. Alors Marcus Holloway, qui était un peu hors la loi dans Watch Dogs 2, n'a pas le profil gangster. Donc lui, il a le profil hacker. Donc il rentre pas dans ces clichés-là. Mais c'est vrai que voilà, la représentation des personnages, des hommes noirs dans le jeu vidéo. Pose problème et au-delà des effets d'annonce des différents éditeurs, constructeurs, etc., il faut espérer et aussi des dons. Hein, enfin,
oui, on n'en a pas parlé, mais
il y a eu des dons
à
Black Lives Matter et à tout ce genre de choses. Mais il faut aussi travailler parce que la véhiculer des clichés dans le jeu vidéo, c'est aussi important de lutter contre ça, et voilà, il faut espérer que ces prises de position récentes
se transforment
en vrai changement
éditorial, éditoriaux, enfin en exactement. Intégration éditoriale, en re-questionnement peut-être éditorial. Je suis d'accord, hein, complètement. Espérons. En tout cas, il fallait que le jeu vidéo réagisse. Je trouve que c'est aussi une forme de, on pouvait pas faire comme si de rien, enfin c'était une évidence. Mais le fait de l'acter, c'est important. Je pense que, et ça replace aussi le jeu vidéo dans la société. Je trouve que c'est important, tu vois, de voir la place du jeu vidéo au sein de la société aujourd'hui. On sait que le jeu vidéo, il a une importance capitale en termes d'image, en termes de popularité auprès des jeunes. Il peut véhiculer des modèles. Il est important, le jeu vidéo. Donc c'était primordial qu'il y ait cette prise de conscience, cette prise de position, pardon.
Il y a une sorte de dissonance quand même dans ces annonces. Et encore une fois, en plus, les textes des annonces, tu sens qu'ils ont été travaillés. C'est pas. Ouais. Ils utilisent les bons mots de mise en retrait.
C'est du marketing.
Non. Ah, oui, alors, c'est du marketing, mais réfléchis. Ils connaissent les causes dont ils parlent et ils savent. Il y a le choix lexical de la voix, de laisser parler les gens, les premiers concernés, et voilà, et ils se cachent pas derrière leurs petits doigts. Il y a pas de litote ouais. ou de fémisation ou de choses comme ça qui
ouais.
voilà, ouais, les textes sont clairs, mais on sait aussi voilà que La légère dissonance, c'est que on retrouve pas cet engagement politique dans le jeu vidéo. Alors, je l'ai dit, il y a la représentation des hommes noirs, c'est un sujet, mais la lutte contre le racisme, contre les violences policières, et enfin le fait, ces problématiques sont quasiment absentes du jeu vidéo qui se positionne mm-hmm. comme entertainment pur. Ouais. Autant le cinéma a su, et depuis tout le temps, enfin depuis toujours, affronter ces problématiques-là et proposer des œuvres qui en parlent, qui
étaient anglais ou qui pouvaient, ouais. enfin, en tout cas, prendre position.
Ouais. Le jeu vidéo, voilà, on se rappelle encore d'il y a quelques mois que personne ne fait de politique hein, dans le jeu vidéo, ni Quantic Dream, ni Call of Duty, mais non, on ne fait pas de politique, personne ne fait de politique, parce que faire de la politique, c'est oh mon Dieu, il faudrait surtout pas faire de politique dans le jeu vidéo. Bah aussi, encore une fois, moi je pense que c'est, il faut pas, tout est politique.
Tout bah, est politique. Question citoyenne. Ne pas faire de,
ne pas faire de politique, c'est faire de la politique. Revendiquer le fait de ne pas faire de politique, c'est un acte politique. Et donc, de se dire que le jeu vidéo a aussi des progrès à faire là-dedans et d'être en raccord avec la société, avec les problèmes qui est véhiculé dans la société. Voilà. Bref, c'est
question de vie citoyenne et voilà, le jeu vidéo doit se positionner vis-à-vis de cette vie citoyenne. Et c'est important.
Et cette vie question aussi de maturité et toutes ces questions-là. On passe à la suite. Le com des coms de la semaine dernière, pas grand chose, pas de nombreux commentaires sur les jeux dont on a parlé. Il y avait pas d'emballement autour.
On était mitigé, hein,
du requin.
On était mitigé sur pas mal de titres.
Oui, c'est vrai qu'on était mitigé sur pas mal de titres. Il y avait pas forcément de jeux majeurs et incontournables dont on a parlé. Il y a quand même Monsieur U qui a réagi Alors c'est la suite de Comme des Coms, donc mais c'est très bien, j'aime bien faire ce genre de choses, avec la remarque, je crois que c'était Mon Chabalet qui parlait de cette animation, animer quelqu'un au réveil ou quelqu'un qui s'habille après...
Ah
après
oui, ça, oui. Voilà.
Et Monsieur prosaïque, qui est un animateur, donc qui est un auditeur de longue date et qui est animateur de métier, nous dit animer des personnages qui s'habillent, surtout en 3D, c'est ultra pénible. Les vêtements sont simulés de nos jours. Je crois que des interactions de ce genre sont assez difficiles à rendre. Je me rappelle avoir lu qu'un ingénieur de chez Pixar avait piqué une crise de nerfs parce que dans Les Indestructibles, un personnage devait toucher les cheveux d'un autre. On a sans doute fait des progrès depuis, mais ce genre d'interaction reste complexe à rendre en temps réel malgré la puissance des machines actuelles, ça paraît encore très optimiste, même si on commence à voir des cheveux et des vêtements partiellement simulés, et pas partout, et très imparfaitement. On n'a pas fini de voir des personnages se mettre au lit tout habillés. Voilà, c'était...
Les yeux, les cheveux, enfin voilà, ça fait partie des choses naturelles qui sont très difficiles, je crois, à rendre en animation...
Ouais.
En animation mais 3D, hein.
Après, je trouve que le jeu vidéo s'en sort bien. Enfin, je trouve que ces derniers temps, ils ont trouvé une manière de modéliser les visages, les cheveux et tout ça, qui sont bien, qui sont pas dans le photoréalisme, mais qui restent très très
choque moins peut-être.
On va commencer le programme de jeux vidéo cette semaine avec un petit retour à la fin des années 90, mais c'est pas pour une réédition, c'est pas pour un remake, c'est pas pour comment on appelle ça, une
remasterisation.
C'est quoi ces mots qu'on utilise, c'est pas pour une remasterisation, c'est pour quoi? Est-ce que c'est un hommage? Est-ce que c'est une volonté de réutiliser, de retrouver les sensations qu'on avait à l'époque? En tout cas, dès qu'on le lance, on a l'impression de jouer à une nouvelle version de Duke Nukem 3D. Ce n'est pas pour rien, on va en parler. Ça s'appelle Ion Fury. This is a public service announcement. Return to your homes or face death. We're taking over this town. Sure, let's dance. Ion Fury qui est sorti en août 2019. Pas si longtemps que ça. Hein. Il y a un peu plus de 6 mois
sur PC.
Et qui débarque sur console ces jours-ci. Alors c'est ça, hein, qu'on lance, on a juste l'impression de voir Duke Nukem 3D. Enfin c'est impressionnant.
C'est suite, hein.
Et c'est édité par 3D Realms, donc c'est pas pour rien.
Donc il y a pas de doute, voilà, 3D Realms, c'était évidemment l'éditeur de Duke Nukem 3D, le fameux. Alors pour moi ce jeu c'est un peu un what if. Tu Tu sais, c'est ouais. un peu une dimension parallèle, comme si le moteur, le build engine, qui faisait tourner Duke Nukem 3D, s'était imposé, qu'on pouvait encore faire tourner des jeux, sortait encore aujourd'hui dessus. Ouais. C'est assez rigolo. Alors, ce jeu, il a eu une gestation un peu compliquée. Il s'est appelé Iron Maiden au tout début du projet. Ils ont eu des problèmes, évidemment, de droit avec un groupe bien connu. Et puis, il est arrivé sur PC, maintenant sur console. Alors, petit disclaimer, moi, je fais partie de ces gros nostalgiques de Duke Nukem 3D, j'avoue. Mmh. Moi, je fais partie de ces gens qui ont sur leur Steam Duke Nukem Atomic Edition installé et Shadow Warrior qui sont toujours prêts à être lancés parce que j'aime bien faire des parties de ces jeux-là. J'aime bien ces FPS, tu sais, qui étaient très nerveux, assez trash avec du gore et des choses comme ça. Et la grande particularité donc de Iron Fury, c'est qu'il est basé sur ce fameux Build Engine, oui. donc ce moteur créé par Ken Silverman dans les années 90. Alors, qui avait un peu mis la misère à l'époque à Doom, hein, qui était arrivé quelques mois après Doom, qui avait vraiment des particularités. Il simulait un effet 3D, ce qui n'était pas en 3D, avec du bitmap. Et surtout, il se démarquait vraiment par, il était assez rapide, assez punchy, et puis il motivait pas mal d'interactivité avec les décors. Tu pouvais casser pas mal de choses, tu pouvais interagir, ouvrir les portes, tu avais pas mal de remarques du héros dans le jeu, etc. Ça faisait vraiment partie de ce que proposait le Build Engine. Et puis il avait équipé pas mal de jeux comme Blood, Tech War, fameux jeu avec William Shatner, avec des séquences full motion vidéo qu'on essaie d'oublier, mais qui est toujours. Qu'on peut encore voir tourner sur YouTube. Donc voilà, c'est un moteur qui a eu vraiment son petite heure de gloire parce qu'il a apporté quelque chose et puis en face, il s'est pris la maestria de id Software qui est revenu avec Quake en face, ouais. avec un vrai moteur 3D, lui, avec un vrai calcul 3D. Autant Quake était un peu tristouille à jouer, mais c'était une vraie leçon techno, hein, ouais. Carmack, il a très vite remis les choses en place. Et puis après, du coup, toutes les évolutions majeures ensuite ont découlé de Quake, hein, avec des vrais moteurs 3D qui ont suivi. Et finalement, le Build Engine, il est resté un petit peu en marge. Donc là,
parce qu'il a, vraiment son. C'est rare qu'un moteur ait autant son identité.
Ah,
c'est-à-dire qu'on lance Iron Fury, donc un jeu de 2019-2020 qui est fait avec ce Build Engine.
Une version un peu boostée, évidemment, oui, retouchée avec quelques effets en plus.
Mais on sait où on est.
Flagrant.
C'est ouf.
Assez flagrant.
On sait où on est. Quoi. C'est que suite. Pour ceux qui ont joué au milieu des années 90, 96-97.
96 du Duke Nukem, je crois. Ouais, c'est
Duke
ça.
Nukem 3D.
Tous ces jeux-là, c'est quelques années. Hein, donc,
on sait qu'on est là, quoi. On sait qu'on est dans. Univers, et dans ce rythme, et dans ces décors un peu destructibles en bitmap, et on sait qu'on est là.
C'est speed, c'est ce qui marque. Moi, c'est ça qui. Alors, tout de suite, j'avoue que je prends pas mal mon pied avec ce jeu, parce que c'est speed, c'est super dynamique. On a un peu perdu, c'est vrai, ce rapport avec des décors. Alors, il faut aimer ça. Je pense que vraiment, pour profiter de ce jeu, on va le dire tout de suite, il faut avoir un vrai passif avec Duke Nukem et toute cette filiation de jeu. C'est un vrai plus d'avoir cet attachement. Parce que le jeu est truffé de clins d'œil. On retrouve donc on n'a plus Duke Nukem en personnage principal.
J'ai l'impression, juste pour t'interrompre et je te redonne la parole, mais c'est pour réagir à ça, c'est pas un vrai plus. C'est un prérequis.
C'est fondamental.
Non, mais c'est ça. C'est un prérequis. C'est que c'est pas que c'est pas. Vous allez plus apprécier le jeu si vous connaissez Duke Nukem 3D. C'est l'inverse. C'est que si vous ne connaissez pas Duke Nukem 3D, c'est pas la peine.
Faites Duke Nukem 3D avant. On le trouve sur Steam et d'autres. Et puis revenez peut-être voir Iron Fury après, parce que voilà, c'est vraiment un jeu qui est truffé de clins d'œil. Donc on n'incarne pas Duke Nukem, on incarne Shelley Harrison, donc c'est une héroïne un peu badass, hein, comme Duke Nukem, alors qui était déjà apparue dans un autre jeu que j'ai pas fait, qui s'appelle Bombshell, a priori, c'est un personnage qui était déjà apparu dans un autre titre. Je crois que c'est une préquelle cette fois. Bon, le scénario, très franchement, il a pas beaucoup d'intérêt, il est vite expédié, et comme tu dis, dès que tu lances le jeu, tu y es, t'es dans Duke Nukem, en fait, parce que, en plus, t'as une mise en scène, t'as plein de clins d'œil avec, dès le début, une explosion à l'écran, c'est typique, t'as l'impression de voir la fameuse scène d'intro de Duke Nukem où t'étais sur un haut d'immeuble où tu tombais après, etc. Donc, t'es vraiment en plein dedans. Et, alors voilà, donc, on est vraiment là-dedans, on est vraiment dans une si tu aimes Duke Nukem, on te sert ça. On te sert ces niveaux avec des ennemis qui se ressemblent tous, qui te tirent dessus. C'est speed, tu claques les portes dans tous les sens, tu fais exploser pas mal d'objets autour du décor, tu trouves des objets pour remonter ton énergie, etc. Et tu retrouves très vite ce canevas typique des Duke Nukem et de la filiation de jeu avec des clés de couleur, des niveaux où il faut retrouver la porte qui va l'ouvrir, où c'est pas forcément aussi évident que dans les jeux d'aujourd'hui. T'as cette rugosité aussi qui fait partie du package, j'ai envie de dire.
Ouais.
Alors ce que j'ai trouvé appréciable, c'est qu'il est nerveux, ça je l'ai dit, il est dynamique. Tu retrouves cette pêche. Il y a une pêche, comme tu disais, une signature vraiment avec ce moteur, c'est que il envoie tout de suite. Et je trouve qu'il a du répondant le jeu. Il est difficile. Très vite, tu vois, même si tu le lances en mode normal, je trouve qu'il t'a du répondant. Et ça, c'est pas mal. Je trouve que tu retrouves très vite moi, j'ai trouvé même plus difficile que Duke Nukem. Je trouve que t'as des ennemis, très vite, dès les premiers niveaux, te mettre la misère, quoi. Donc, faut pas mal s'accrocher. Donc, c'est pour ça, effectivement, il y a un vrai prérequis, même d'expérience de ces jeux-là. Donc, voilà, t'es content de retrouver ce côté. C'est du fan service, hein. C'est un jeu de fan service, en fait, pour toute cette, tous ces jeux-là.
C'est juste que ça vieillit, hein, quand même. Hein.
En fait, très vite. Alors, moi, j'ai pas vraiment de problème avec ça parce que c'est le postulat, c'est on te resserre un Duke Nukem aujourd'hui, c'est un nouveau Duke Nukem fait comme à l'époque. Le problème, moi, qui m'a sauté aux yeux au bout de quelques heures de jeu, c'est ce. Alors finalement, il singe ces titres-là, mais j'ai eu l'impression qu'il était un peu étouffé par ces modèles et notamment Duke Nukem 3D, où Duke Nukem 3D, t'avais quasiment une idée par niveau, t'avais toujours des vannes, t'avais des thématiques. Alors là, je trouve que ce jeu-là. Pourquoi on peut dire qu'il est de 2019 ou 2020? C'est dans la structure des niveaux. C'est vrai qu'il y a une richesse. Tu sens qu'ils sont perfectionnés. Tu sens que les mecs ont vraiment travaillé la structure. Et quand tu connais un peu ces moteurs-là, tu sais qu'il y a beaucoup de travail dessus. C'est flagrant. Je trouve qu'il y a un vrai travail, un vrai soin de level design. Et c'est vraiment ce qu'on demande à un titre comme ça aujourd'hui. Donc ça, vraiment, très bon point. Tu as pas mal de passages à découvrir. C'est très riche. Et les niveaux, tu peux les traverser dans tous les sens. Il y a toujours des petits trucs que tu vas découvrir, etc. Ça, c'est vraiment bien. Moi, je suis plus mitigé sur l'univers, en fait. Je trouve qu'il manque un peu de personnalité. Tu sens qu'il cite tel jeu, tel Shadow Warrior, tel machin, etc. Il va citer, Rise of the Triad ou d'autres titres. Mais il a du mal il lui manque cette folie que tu avais dans les titres de l'époque. Alors évidemment, parce qu'il est fait aujourd'hui. Peut-être que, moi, j'ai l'impression qu'il est un peu étouffé par ses modèles. Et j'ai eu l'impression qu'il avait du mal à se renouveler autant qu'un Duke Nukem qui, je te dis, à chaque niveau, tu avais toujours un nouveau truc. C'était aussi une autre époque, effectivement. C'était un moteur de pointe à l'époque où tu découvrais quasiment ça à l'écran. C'était assez révolutionnaire, même sur les adaptations console. Après, tu as eu des portages sur console, etc. C'était révolutionnaire. Aujourd'hui, évidemment, c'est un exercice de style particulier de lancer ça aujourd'hui. Moi, j'y prends pas mal de plaisir parce que, comme tu dis, on retrouve vraiment cette signature propre au moteur. Je trouve qu'il lui manque un petit truc de personnalité.
Mais moi le reproche que je ferais, c'est que je me suis très vite ennuyé. Je me suis très vite ennuyé parce que c'est, comme tu dis, tu utilises les termes de fanservice et tout ça, et je suis d'accord, mais c'est le problème, c'est que quand tu rapatries un moteur, quand tu rapatries une technologie, quand tu vas chercher en 1996-97 des souvenirs de jeu, des sensations de jeu comme ça que tu avais à l'époque et que tu as envie de réadapter en 2019-2020, c'est des choses qui ont été faites. Par ailleurs, c'est des choses qui ont été faites par les jeux, les platformers 2D par exemple, les platformers 2D qui ressortent avec du pixel 16 bits ou 8 bits.
Ils s'imprègnent
des technologies de l'époque, mais ils proposent quelque chose de moderne.
Ils transcendent
le truc et ils se disent, on est en 2019, on a quand même des jeux qui sont passés depuis, on a quand même des idées, des théories du jeu, des idées de gameplay, des idées de rythme, des idées. Et Et moi, ce que j'attendais finalement, justement avec ces premières sensations de jeu, quand j'ai retrouvé un peu, voilà, ah tiens, c'est bon, je suis en 97, je joue à la suite de Duke Nukem 3D. Au début, j'ai eu une sorte d'espoir de me dire, tiens, est-ce qu'ils ont fait la même chose que Super Meat Boy, que Céleste, que, c'est-à-dire reprendre une icono de l'époque, un gameplay un peu basique de l'époque, mais en le transcendant, en le modernisant, en ajoutant quelque chose de moderne. Et ben là, bah, je te dis, désolé, il y a rien. Il y a rien.
Pour moi, non, la valeur ajoutée, elle est vraiment au niveau des niveaux. Je trouve qu'il y a un vrai travail là-dessus sur les configurations. Vraiment, ouais, j'ai trouvé qu'il y avait certaines cartes qui étaient vraiment remarquables.
Ouais, mais oui, je suis d'accord, mais c'est voilà, c'est ils ont bossé leur jeu, quoi. Heureusement.
C'est pour ça que c'est pas un titre fondateur. C'est un vrai plaisir coupable. On penche plus sur le plaisir coupable jouissif de se retrouver dans son jus.
Ouais, mais moi, de l'époque. Du coup, moi, je me suis très très vite ennuyé. Mais enfin, sans.
Et je suis d'accord avec toi. Moi, j'y prends beaucoup de plaisir parce que je te dis, moi, je joue encore régulièrement à Shadow Warrior de l'époque. D'ailleurs, ça posait la question.
C'est peut-être ça notre différence.
Remaster. Comment ?
C'est peut-être ça notre différence.
Mais tu vois, je me suis posé la question. Tu vois, il y a eu des remasters, des remakes de Shadow Warrior. Tu as eu évidemment Duke Nukem Forever qui était un naufrage total. Ces jeux-là ont eu du mal à être transcendés par une relecture fondamentale. Donc, il y avait une piste de dire on revient au moteur parce que c'était le moteur, c'était lui l'identité de ces jeux-là finalement. Et là, on le voit comme tu dis, on le reconnaît tout de suite au premier instant, on reconnaît la fluidité, etc. Maintenant, je suis d'accord, il reste au stade du vrai plaisir coupable. Pour moi, c'est vraiment, enfin, je te dis, je m'amuse avec parce qu'il y a un niveau de difficulté qui est là, il y a du répondant, mais oui, il ne transcende pas. Et au bout de quelques heures de jeu, tu te rends compte que, hormis un niveau de difficulté qui te fait t'accrocher parce que il a du répondant, mais effectivement, il réévalue pas la formule.
T'aurais envie enfin, moi, quand j'ai lancé le truc, mais sincèrement, c'est une impression sincère, j'avais envie d'être étonné, j'avais envie d'être surpris, envie d'être emballé, j'avais envie d'être attiré,
même l'héroïne,
comme certains jeux ont réussi à le faire, alors que
comme l'héroïne, hein, moi j'étais content, ravi, parce que Duke Nukem, quand tu relances un Duke Nukem aujourd'hui, c'est abominable, hein, t'as des vannes sexistes, c'est vraiment un jeu des années 90, c'est terrifiant quand tu le relances d'ailleurs aujourd'hui, t'as certains épisodes qui sont, enfin c'est incroyable, et je me disais, mettre une héroïne justement en perso principal, c'est une super idée, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Bah finalement, elle fait pas grand-chose de plus, et ça non plus, c'est pas assez exploité, je trouve, il y avait quelque chose de plus marrant, et peut-être de plus, tu vois, pince sans rire et de plus acide, et finalement bon, ils le font pas plus que ça, et finalement les clins d'œil années 90, c'est plus dans la musique qui cite pas mal de bad music de l'époque, où on reste en surface, je suis d'accord. Donc plaisir coupable et pas grand jeu, mais plaisir coupable que voilà,
et plaisir coupable à 25 €.
sorti console il y a quelques semaines en démat, et sortie physique je crois dans les semaines qui viennent aussi.
Allez, donc Yann Fury, là c'est le moment d'accueillir la chronique de Jérémy Kletskin, la chronique jeu de société de Jérémy Kletskin. Salut Jérémy.
Salut Erwan, alors je suis affalé là dans mon bureau, devant moi, mes étagères Kallax Ikea de 5x5, qui abritent environ un tiers des 600 jeux de ma collection, et mes yeux balayent là cet horizon fait de jeux. The Rivers, Downfalls, Inish, Spyfall, Codenames, Takenoko, Kingsburg, Reef, Orbis, et celui dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, Genoa. Alors c'est pas du tout une nouveauté, hein. Il est sorti en 2001, mais c'est vraiment le seul jeu un peu ancien qui continue vraiment à trôner dans mon quotidien. Alors oui, il y a des chefs-d'œuvre absolus, des King Domino, des Codenames, des Penguin Party, vous vous rappelez ? Mais si on me demande aujourd'hui c'est quoi ton jeu préféré ? Je répondrai d'une seule voix, la mienne, Genoa. Il a été réédité plusieurs fois, l'éditeur Philosophia a disparu. Enfin bon, il est partout sur le Bon Coin, sur eBay, etc. Donc pour le trouver, sans problème. Alors pourquoi est-ce que c'est mon jeu préféré de tous les temps ? Déjà parce que c'est une grande boîte, avec plein de matériel, superbement illustré, sur une thématique de 16e siècle, en Italie. Et ben oui, le rayonnement universel de la Renaissance, c'était pas que de la culture, c'était aussi du commerce. Mes quatre grands-parents étaient commerçants, j'ai ça dans mon ADN, et la structure, la mécanique de ce jeu est juste fantastiquissime, c'est un chef-d'œuvre. Sur la table, il y a un grand plateau, une grille de 8x8 avec plein de lieux et un grand marché au centre. Sur le pourtour, vous avez des commerces, des villas, des tavernes, un palace, un parc, etc. Certains lieux vont occuper plusieurs cases, deux ou quatre même. Les joueurs ont des missions à remplir, ils vont devoir se fournir en ressources, ils vont devoir livrer des ressources à des endroits spécifiques. Certaines cartes vont vous demander de faire un parcours défini sur le plateau. Et il y a vraiment deux aspects révolutionnaires dans ce jeu. Le premier, c'est que les joueurs prendront tour à tour le rôle du marchand qui pourra décider de l'itinéraire. Pendant les 5 cases qui composent cet itinéraire, les autres joueurs pourront négocier avec le marchand d'effectuer une action là où il se trouve. Et donc, si on veut pas avoir à attendre son propre tour pour faire ce qu'on a à faire, il va falloir convaincre les autres de vous laisser jouer pendant le leur. Et donc, on va négocier avec le marchand, on va partager les ressources qu'on a obtenues par notre action avec lui. Et on en arrive au deuxième concept fantastique du jeu, c'est qu'on peut tout donner, tout négocier. Nos contrats, nos jetons, nos ressources, des promesses. En fait, on peut mettre tout ce qu'on veut dans la balance. Et ça donne une impression de liberté, c'est vraiment très réaliste comme sensation, en fait. Et donc, voilà, pour moi, c'est le jeu parfait, le jeu ultime. Je vous rappelle le nom, Genoa, de 2 à 5 joueurs, à partir de 12 ans, pour des parties d'environ 90 minutes quand même. L'auteur Rüdiger Dorn, il y a des vidéos de parties sur YouTube, vous le trouverez en aucun sans problème. Et moi je vous dis à bientôt pour parler de jeux qui parfois ne vieillissent jamais. Bye bye.
À la semaine prochaine, Jérémy Kletskin et sa chronique Jeux de Société. Et voilà, il faudra qu'on voit quand est-ce qu'il revient d'ailleurs. je me suis toujours pas remis de la fin de l'émission dernière où il a sorti Chris Ramsey de
ah oui vous aviez
de,
eu
son,
un bug
de son chapeau je, c'est ouais. Une sorte de coïncidence qui est très très troublante. c'est le moment. Alors oui, alors ce jeu-là, il est intéressant. On n'en a pas parlé au moment de sa sortie originelle, je crois.
Non.
Donc
non,
c'était en 2018. C'était une exclue PlayStation VR. Il y en avait pas tant que ça, mais c'en était une. Et il sort aujourd'hui. Alors c'est un mouvement. Je sais pas, ça doit pas être inédit, mais en tout cas, c'est
Il y en a d'autres.
C'est très rare.
Il y a d'autres jeux qui font.
C'est-à-dire que c'est un jeu réalité virtuelle qui s'aplatit. Donc qui se met au format écran et qui arrive sans les casques, ça s'appelle...
C'est pas toujours une bonne idée, non. Mais parfois ça marche. On va
parfois ça marche. Ça s'appelle The Persistence. The Persistence, donc voilà, une exclue PSVR qui arrive sur Steam en VR et en non-VR, donc un peu sur tous les formats. C'est l'occasion d'en parler, sur... Alors, est-ce que tu l'as essayé en VR, du coup ?
Ah, moi, j'avais... Ouais, exactement. Je l'avais essayé il y a un peu plus d'un an, je crois, en VR. J'avais un petit peu joué. Bon, j'avais trouvé sympa, mais j'avais eu des petits soucis de déplacement avec. Je sais pas, j'avais essayé un soir. J'avais pas eu un coup de foudre... immédiat sur la VR, je l'avais relancé, mais bon, je n'avais pas assez joué pour pouvoir en parler, donc voilà. Et puis, bah, du coup, là, l'arrivée sur toutes les consoles, hein, il sort sur Switch, sur Xbox One, sur PC à plat et en VR aussi, c'est l'occasion d'en parler. Et c'est vrai que c'est un mouvement qui se fait, on peut le comprendre, hein, quand tu développes un jeu pour la VR, je comprends l'aspect économique, hein, ouais. De dire on est sur une plateforme qui a plus quoi 4 millions de casques PSVR, c'est très bien, mais si on peut élargir un maximum sur un titre comme ça, je comprends l'acte économique. Après, il faut que ce soit éditorialement et en termes de gameplay judicieux. Je sais qu'Ubisoft l'a fait aussi, je crois, notamment sur leur jeu Star Trek. Hein, donc, c'est pas un cas isolé de porter un jeu uniquement VR et de le rendre compatible aussi écran plat, écran normal, téléviseur. Mais j'ai envie de dire que c'est pas une évidence et ça peut vraiment être un piège. Mais lui, s'en sort très bien.
Mais alors, il s'en sort déjà la présentation, on est très vite, on est très vite assez curieux du contexte scénaristique.
Ah bah
alors
oui.
C'est totalement capillotracté dans tous les sens, mais c'est rigolo.
On parle trou noir.
Un vaisseau spatial. Ouais, on parle de clonage d'ADN, d'intelligence artificielle, de trou noir, de reconstruction, de failles temporelles, de trucs.
Ah, je prends direct. On parle Event Horizon.
Truc est tellement concis. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que c'est présenté.
Ah, c'est vrai.
Il y a pas trop de fioritures. C'est présenté rapidement par une voix off qui t'explique. Alors au début tu comprends rien et puis au bout d'une minute tu commences à mettre les pièces du puzzle dans l'ordre.
Mais je suis un clone en fait.
Ouais voilà, je suis un clone. Si je meurs c'est pas grave, je reviens là. Et puis en plus il y a cette imagerie du trou noir façon interstellar, donc
bien sûr.
Et l'imagerie un peu crédible du trou noir qui est là, pas au niveau des échelles, mais bon, de l'image en elle-même, elle est là. Et donc, voilà.
Cas, oui, puis des impacts scientifiquement prouvés qui transforment en zombies tous les membres d'équipage d'un vaisseau. Enfin, ça, on le sait, hein, c'est une évidence. Ça a été acté.
On a des expériences en double aveugle qui ont été menées.
Et comme tu dis, le jeu il te balance direct dans le jus, t'y vas, t'es directement dans le jeu. Et ce qui est très bien, c'est que malgré tout, avec ce petit fil rouge narratif, et ben, il t'introduit les mécaniques de jeu. Mine de rien, je trouve que tu vois ce côté. Parce que c'est ça, on est sur un hybride concrètement de FPS horrifique un peu à la Alien Isolation avec un peu de Dead Space dedans pour le côté horreur qui est très bien tenu. Je trouve que vraiment, qui fait bien l'ambiance, qui crée vraiment quelque chose. Et puis une mécanique de roguelike en fait, avec ce côté. Je meurs, je recommence, je me fais tuer à chaque fois, mais peu à peu, je progresse. Je vais acquérir des schémas pour fabriquer des armes avec une sorte d'imprimante 3D qui permet comme ça de créer des armements. Et puis peu à peu, on va avancer comme ça dans cette narration. On est sur des niveaux qui sont générés aléatoirement, mais encore une fois, je trouve que ça marche plutôt bien parce que le jeu est assez élégant visuellement. Je trouve qu'il a, il a quelque chose. Et finalement, alors, au bout de quelques heures, tu te rends bien compte que c'est aléatoire, mais je trouve qu'il y a une élégance dans le visuel qui fait que ça passe bien. Et surtout, ce qui n'était pas forcément évident, c'est qu'il crée une ambiance. Malgré, tu vois, de l'aléatoire et puis quelque chose de très récurrent, tu refais des parties par définition, c'est le principe. Et ben, je trouve qu'il arrive vraiment à créer une ambiance. Et moi, j'ai eu plusieurs moments d'angoisse. Et c'est pas évident, tu vois, les survival, j'ai fait du Alien Isolation, j'ai fait du Dead Space. Et ben là, je trouve qu'il arrive à créer quelque chose parce que on croise évidemment des membres d'équipage zombifiés qui sont ultra agressifs, qui sont en fait t'as pas mal vraiment les premières heures de jeu, c'est vraiment de l'infiltration en fait. Hein. Tu dois te déambuler comme ça dans les pièces, éviter au maximum les ennemis ou les trucider de façon à récupérer leur ADN pour pouvoir les réexploiter dans ces fabriques d'armes et d'objets. Et du coup, tu évites plutôt les combats au corps à corps qui sont loin d'être gagnés. Tant que tu n'es pas bien armé, c'est une vraie galère. Et du coup, ça crée une pression. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais vraiment, le jeu, il t'embarque. Il te met un stress à chaque ouverture de porte, comme dans un bon roguelike, en fait.
C'est ça. Et avec cette trouvaille, alors moi, franchement, je trouve que ce qui est intéressant dans The Persistence, c'est ce réimport de mécaniques de jeu issues de la VR.
Ouais. Moi, j'ai connu en VR, du coup.
Sur un écran. Et ben, je trouve que ça a amené, sans doute, des trucs. Alors, c'est idiot, mais la saisie automatique des objets, je trouve qu'elle est. L'activation automatique des portes, il suffit de.
Bon, très bien, ça le faisait.
C'est
important ce que tu dis.
C'est pas mal. Tu parles des portes. Par exemple, le fait que. On s'approche d'une porte, si on laisse le pointeur dessus suffisamment longtemps, elle s'ouvre. Mais si on approche, on fait juste d'approcher de la porte, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre où on peut voir un petit peu de ce qui se passe dans la pièce à côté. Et c'est super important de se préparer s'il y a un adversaire qui arrive, qui nous voit, qui est en alerte, ou il est de dos et donc il faut se dépêcher parce qu'il faut l'attaquer par surprise avant qu'il se retourne et tout ça. Et donc cette petite lucarne qui s'ouvre sur la pièce d'après. Enfin, il y a plein de petites trouvailles, comme tu le dis. Il est élégant et le côté aléatoire de l'architecture, parce que à chaque fois qu'on fait un nouveau run, et ben les pièces se réagencent, etc.
Les différents
c'est
niveaux
vachement bien pensé, sachant qu'on a la carte dès le début du niveau, donc on sait où on doit aller, on sait où sont les fabriques d'armes, les fabriques d'amélioration, etc. Donc on peut un peu stratégiser son run pour voir à quel endroit on va avant quel autre. Mais ça va, je trouve que il y a une cohérence visuelle sur l'ensemble qui fait qu'on n'a pas l'impression d'être dans un truc généré aléatoirement. Je trouve que c'est alors je sais pas si les pièces sont construites, sont level designées ou sont elles-mêmes générées aléatoirement, mais je trouve que tout s'agence très très bien. Et du coup, je trouve ça passe, quoi. J'avais un peu peur quand tu m'avais expliqué que c'était un ancien jeu VR réadapté. Et finalement, je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses intéressantes à glaner de ce réimport d'éléments VR que de choses un peu handicapantes.
Et la limite, tu sais, Je l'ai presque trouvé plus confortable à jouer à la manette que, enfin, tu vois, à l'écran traditionnel qu'en VR. Donc, il faut que je réessaye la VR maintenant que je suis passé à l'écran traditionnel. Mais effectivement, il y a vraiment des choses à conserver et ça pouvait faire peur de te dire on garde une interface VR, mais ça fonctionne très très bien. Je trouve qu'il y a un sound design qui est excellent et c'est important sur un jeu horrifique comme ça. Repérer, tu rentres dans une pièce, tu repères tout de suite s'il y a, t'as des codes sonores qui permettre de comprendre s'il y a un ou deux ennemis avant même de les voir. C'est tout simple, mais tu sens que tout ça est bien orchestré. Moi, j'adore les objets piégés. Parce que tu passes ton temps à ouvrir des tiroirs. C'est un jeu à tiroirs aussi. Tu as des tiroirs piégés, un peu comme dans un jeu de rôle où parce que tout se joue avec le regard, comme tu le disais. Ça remplace, sur le PSVR, c'était ton mouvement de tête qui dirigeait ton curseur, donc pour aligner ton curseur sur un placard qui va s'ouvrir ou un mécanisme, etc. Là, c'est vraiment au stick, tu diriges, etc. Et donc, tu peux avoir une porte piégée qui va se mettre à faire un petit bruit d'alerte. Si t'es pas assez rapide, elle te pète à la figure. Donc, t'es tout le temps en stress, en fait. Vraiment, le jeu, vraiment. Parvient à garder une pression tout le temps. Et puis, il y a plein de gadgets à débloquer. Tu as des armes, des trucs anti-gravité, tu as des trucs pour diriger les ennemis, pour les mettre de ton côté. Il y a plein de bonnes idées comme ça. Et vraiment, ce qu'on garde, moi, ce que je garde, c'est ça, c'est cette mécanique VR qui fonctionne bien à plat. Et tu te dis, il y a des choses à en garder. Effectivement, c'est assez impressionnant et vraiment très confortable à jouer. Et puis, c'est un jeu. On rentre vraiment dans le syndrome. J'ai fait un run, je viens de mourir. Bon, allez, je retente parce que je vais mieux réussir ou parce que la voix off. En plus, le jeu enchaîne direct. Donc, hop, tu repars aussi vite. T'as envie d'en savoir plus. Et vraiment une très très bonne surprise, ce Persistence. Alors, je trouve que
les limites que je poserais quand même, c'est que on se rend compte très vite qu'on est. C'est pas désagréable parce que c'est plutôt bien mis en scène. C'est plutôt mais on est dans le mécanique du loot. Du loot, toujours du loot, amélioration, loot.
Ouais.
Voilà. Alors
ça fait partie du des.
Ouais, mais
on n'est pas sur un survival. Hein. Enfin, on est vraiment sur de l'hybride. C'est important de souligner en effet.
Ouais, mais c'est sur cette variante du rogue. Qui est pas forcément la plus intéressante, c'est-à-dire que on sait très bien que le rogue, on l'a vu sur plein de jeux excellents, le fait que quand on meurt, on garde des améliorations de la partie précédente pour améliorer son personnage et pour aller plus vite et pour aller plus loin. Mais là, on est clairement dans dans une boucle qui impose le fait de recommencer, de faire des runs, une fois amélioré. Ouais. C'est-à-dire que on n'est pas sur un rogue où on peut faire un premier run et gagner. Sans doute, hein, peut-être qu'un hardcore gamer pourrait, mais et encore.
Je pense,
c'est
pas le principe.
Ouais.
C'est pas le.
On est vraiment sur cette boucle de gameplay entre guillemets qui va être. On va looter, on va améliorer ses armes. Comme ça, au prochain run, j'aurai directement accès à des armes améliorées et donc je pourrai me débarrasser de mes premiers ennemis avant d'arriver aux ennemis supplémentaires plus forts où j'aurai besoin d'armes plus fortes. Et donc, du coup, on est sur une mécanique de gameplay de loot amélioration qui, même si elle est encore une fois bien mise en scène dans Persistence, n'est pas le gameplay le plus passionnant du jeu vidéo.
Autre peut-être bémol par rapport donc à cette interface qui fait très bien le transfert vers de l'écran à plat. Moi, j'ai un peu plus de mal avec, tu sais, l'effet de projection qu'on utilise beaucoup en VR. Et là, on l'utilise aussi. Je trouve que c'est moins spontané.
La téléportation,
parfois,
téléportation
où tu pointes, et ça en VR, c'est souvent utilisé pour ne pas te rendre malade, où tu pointes un objet, enfin un point dans l'écran un peu plus loin, et hop, tu es transféré. Je pense que quand tu n'as pas les codes de la VR, que tu n'es pas habitué à ça, ou tu oublies de le faire parce que ce n'est pas dans tes instincts, dans tes réflexes, là, c'est le seul truc qui m'a semblé un peu forcé. Je me suis dit, on sent que ça vient de la VR, c'est un peu capillotracté. En revanche, moi, je pense que si on accepte ce côté rogue qui peut être un peu rugueux, qui peut être un peu lassant, ça peut presque aussi être un bon titre d'initiation à la VR. Se dire, est-ce que je suis prêt à ce genre de mécanisme ? Est-ce que ça m'intéresse avant de faire le grand saut ? Ça peut être aussi un moyen de voir si on aime ce genre de visualisation. En tout cas, un transfert réussi et que moi, j'aime bien, notamment pour son ambiance. Je trouve qu'il a vraiment un truc, ce jeu. Il m'a fait flipper, quoi. Et t'as vraiment un sentiment de solitude qui transpire du jeu. Et
après, ouais, je pense qu'il est un peu plus flippant en VR que ouais. en mode à plat, parce que en mode à plat, on va se dire qu'on a... en fait, on n'a pas en mode à plat, on n'a pas tellement le temps de flipper, parce que soit on voit ses ennemis avant et on arrive à élaborer une stratégie, soit ouais. si on voit pas ses ennemis avant, on est mort.
Bah hein. dans mon souvenir, c'est vrai que l'impact, je parlais du sound design qui est toujours très réussi, ouais. évidemment, la même à plat, mais en VR, c'était crispant. Évidemment, t'arrives dans une pièce, t'entends un bruit d'un côté ou de l'autre, c'est terrifiant, parce que, en plus, ils sont vraiment agressifs, hein, dès le début. T'es vraiment en stress, mais vraiment, vraiment très très bonne surprise en termes d'ambiance, de rejouabilité, et c'est le principe du jeu.
Ouais, bah
je suis déjà quelques
mieux,
heures
là,
dessus. Non, vraiment une très bonne surprise.
Donc, développeur, c'est Fire Sprite, hein, donc c'est des anciens de Sony. Et donc The Persistence qui a débarqué notamment sur Steam à 30
sur
euros.
Switch, et, Xbox One. Il est partout ouais. maintenant en fait. Il est vraiment passé d'une exclu PS4 VR à à peu près tout quoi.
Pour le jeu suivant, on est un peu dans la lignée. Quand je vois un rogue deck builder, comment vous dire, c'est une sorte d'obligation professionnelle. Maintenant, j'ai fait Pirate Outlaw, j'ai fait évidemment Slay the Spire, et puis on a fait Iris and the Giant hein, il y a quelques
ouais,
semaines. Donc il faut parler, d'autant que celui-là arrive avec une petite aura sympathique, des échos plutôt positifs des joueurs. En tout cas, je ne pouvais pas y échapper, et ça s'appelle Monster Train. Alors, la grande question avec Monster Train, c'est est-ce qu'il faut expliquer le contexte narratif qui fait qu'on est dans un train de monstres ? Oui,
ah
peut-être.
Si, je pense qu'il faut.
Non.
Si,
ouais.
Faut,
alors,
faut,
grosso modo, il y a un train qui nous amène vers l'enfer. On doit ramener notre brasier. Alors, le brasier, c'est une sorte de cœur, c'est notre vie. Hein. On doit l'amener, notre brasier, le plus intact possible aux portes de l'enfer, mais entre nous
normal.
Et les portes de l'enfer, sur les rails de l'enfer, de notre train de monstre, eh ben, il y a une sorte d'armée. Alors, est-ce qu'ils viennent du paradis ou pas ? Enfin, ouais, j'ai pas trop très bien compris, mais enfin, il y a une armée, il y a des monstres, enfin, il y a des ennemis entre nous et notre objectif qui est d'arriver aux portes de l'enfer. Et donc, il va falloir se défaire de nos adversaires, étape par étape. Grâce à quoi ? Grâce à nos cartes, évidemment. vu qu'on est dans un rogue deck builder, le principe est connu et reconnu. C'est-à-dire qu'on va partir avec un deck initial à chaque partie. Et à chaque partie, à chaque combat ou à chaque événement aléatoire qui est entre les combats, on va pouvoir récupérer des nouvelles cartes, améliorer ses cartes, retirer des cartes de son deck. Point hyper important, hein, le retrait de cartes d'un deck, c'est sans doute l'aspect peut-être le plus capital des rogue deck builder pour optimiser les cartes qu'on va avoir dans un combat et donc se défaire le plus efficacement possible de ses ennemis. Alors c'est assez marrant parce que Monster Train se présente comme un rogue deck builder forcément with a twist. Donc avec un petit truc en plus.
Ah bah quand même.
Et c'est
faut,
quoi
hein,
ce petit truc en plus ? Alors bon, il est pas difficile à trouver parce qu'il est un peu en gros sur le plateau de jeu. C'est-à-dire que on est dans un train à étage, donc un train à étage à 4 étages. Et donc en fait, le combat chaque phase de combat va se passer sur 4 étages. Le 4e étage étant occupé par le brasier du train. Hein, donc ce brasier qu'on doit amener jusqu'à l'enfer. Et donc les ennemis ils attaquent par le rez-de-chaussée, et puis à chaque tour les ennemis encore vivants vont monter d'un étage puis d'un autre étage, et enfin atteindre le brasier. Et quand ils seront au brasier, eh ben, ils vont taper le brasier va pouvoir répondre, mais le brasier va perdre des points de vie, et qu'il ne va pas regagner automatiquement, c'est-à-dire qu'un brasier, bah, il perd ses points de vie, et puis bah, combat après combat, il peut arriver à zéro. S'il arrive à zéro, on a perdu. Évidemment, on aura l'occasion d'augmenter ses points de vie ou de guérir son brasier, mais bon, bref, il faut protéger à mort son brasier. En faisant quoi ? Eh bien, en utilisant avec ses cartes, en plaçant des unités à chaque étage, qui vont donc affronter les adversaires qui arrivent à tous les étages, pour que, arrivés au troisième étage, eh ben, ils soient tous désingués avant d'arriver jusqu'au brasier. Donc, bref, dans son deck, on va avoir quoi dans son deck ? On va avoir des unités, enfin, des cartes unités, qu'on va pouvoir poser à chaque étage, et des cartes sorts qui vont servir soit des sorts offensifs ou des sorts qu'on va pouvoir lancer aux unités adverses, soit des sorts d'amélioration ou de soins de ses propres unités. Et on a une carte héros. Une carte héros, c'est on va avoir une carte héros qui coûte 0 mana à poser et qui est généralement assez forte. Donc c'est une unité spéciale qui a des capacités spéciales dès le départ. Voilà, bon, grosso modo, c'est ça un deck. Et en fait, après chaque combat, on va avoir des nouvelles cartes, on va pouvoir améliorer. Et évidemment, comme dans tous les deck builders qui se respectent depuis Slay the Spire, il va y avoir des artefacts, donc des améliorations générales qu'on va pouvoir récupérer, qui vont nous donner des pouvoirs spéciaux. Et il va y avoir des événements aléatoires qui vont pouvoir, entre chaque combat.
Ah, tout ça est très classique.
Et puis,
on va
pouvoir avoir des magasins pour acheter des nouvelles cartes, des systèmes de forge qui vont permettre d'améliorer soit des unités, soit des cartes, etc.
Ouais.
Donc là, on est sur la description. Hein. J'ai mis déjà très 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 longtemps, beaucoup trop longtemps à décrire le jeu en lui-même. Sachant que je pense que 80% des joueurs qui n'ont jamais fait de deck builder ont déjà complètement lâché l'affaire. Mais c'est pas grave.
Bah, est-ce qu'on peut commencer par celui-là ? Est-ce qu'on peut commencer ?
Non.
Si on ne connaît pas bien le genre, non.
Non,
c'est pas indiqué pour commencer.
On ne peut pas. Alors, le problème, il y a plein... Commençons par ce qui est positif, c'est qu'il est très bien réalisé. Il est très agréable à jouer, il y a des séquences d'animation. Alors, il est un peu moche, entre guillemets, mais moche à cette façon d'être moche qui est bien, c'est-à-dire c'est la façon de Slay the Spire ou Darkest Dungeon, si vous y avez joué. Enfin, c'est cette animation un peu
Darkest
en 2D.
Darkest Dungeon, il est moche ? Non, tu veux pas dire, c'est pas possible.
Il est
super beau.
Oui, bah voilà.
Il est super stylé.
Voilà, c'est stylé.
Voilà, il a
mais
un style.
Il y a un style qui peut rebuter, on va dire. Mmh. Moi qui me parle bien, donc moi, ça me gêne pas du tout. Il est agréable à jouer. Le gameplay est très bien codé. On sait comment on lance les cartes. Il y a des animations, il y a des choses. C'est plutôt bien fait. Les situations sont hyper différentes à chaque fois, donc quand on fait un run et qu'on arrive jusqu'au bout, on est content, et quand ça se passe bien, ça se passe bien, et franchement, il n'y a pas de grosses critiques à faire au niveau de la réale. Le problème, c'est que c'est très vite inintéressant. Enfin, en fait, il y a trop de trucs. C'est-à-dire que, en fait, j'ai même pas, quand j'ai mis très longtemps à expliquer quand même. Tu trouves aussi que j'ai mis très longtemps. Moi, je trouve que j'ai mis très longtemps à expliquer. Et encore, je n'ai pas parlé des 5 clans disponibles.
Ah ouais,
les 5 clans disponibles, c'est les cornus, les éveillés, les gardes stygiens, les umbras et les éphémériens. Alors on commence juste avec 2 clans et puis on finit par en débloquer. Alors les clans, c'est quoi ? Bah, c'est un peu les couleurs à la Magic, hein. Donc les cornus, c'est un peu les troupes des enfers, les éveillés, c'est les plantes, les gardes stygiens, c'est un peu les magiciens de glace. Enfin bref, chaque clan a un peu sa spécialité. Alors quand on va commencer un run, il va falloir en choisir 2. Donc on va choisir son clan principal et son clan allié. Donc on va faire une partie cornu éveillé ou éveillé garde stygien ou enfin voilà, bref. On va devoir choisir un peu sa config, comme quand à l'époque on faisait ses decks Magic, on faisait ses decks rouge-vert, rouge-blanc, noir-vert, etc. Ou alors uniquement noir, enfin bon, bref. C'est un peu les mécaniques classiques des jeux de cartes à collectionner. Mais finalement, on se retrouve avec ce système comme ça qui est trop complexe, enfin qui est trop pour un rogue, c'est-à-dire un truc où on va commencer à chaque fois avec les mêmes cartes, et donc chaque partie va être différente en fonction du hasard, hein, c'est-à-dire le hasard qui va nous mettre à disposition telle carte ou telle rue ou tel artefact ou tel sort ou machin. Et donc du coup, eh ben on va être très 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 dépendant du hasard.
Ah.
Et ça,
faut aimer ça.
Ouais. Parce que, par exemple, la référence hein, qui reste et restera encore pour longtemps, Slay the Spire, on est dépendant du hasard dans Slay the Spire, on va pas se mentir, en fonction des cartes qu'on a et des améliorations qu'on a. Mais en fonction, par exemple, dans Slay the Spire, eh ben, les premières cartes qu'on a, en fonction de son personnage, hein, d'un des quatre personnages, les premières cartes qu'on va avoir et qu'on va rajouter à son deck, eh ben, elles vont... elles vont, comment dire, dans la plupart des cas, elles vont décider de la stratégie que tu vas devoir adopter pour tout ton run. C'est-à-dire que, par exemple, dans Slay the Spire, si tes premières cartes que tu as, bah, c'est des cartes poison, on te propose des super cartes poison, et bah, tu vas devoir adapter ta stratégie pour aller vers la construction d'un deck poison défausse, par exemple, à l'époque. Et donc, tu vas devoir optimiser. Il va y avoir un vrai travail d'optimisation de deck qui va partir de là.
Réagir au hasard, en fait. Tu veux dire, c'est ça, en fait.
Ouais, et en fait, oui, réagir au hasard.
T'adapter au hasard.
Et là, il y a ta vraie qualité de joueur, entre guillemets, qui va rentrer en jeu dans ton choix de cartes, les cartes que tu vas défausser, les cartes, vraiment l'optimisation de ton deck va être purement dépendant de ta connaissance du jeu et de la maîtrise que tu as du jeu. Et dans Monster Train, alors effectivement, j'ai pas fait assez de runs, mais j'en ai fait quand même quelques-uns où je suis allé jusqu'au bout. Et ben en fait, tu te rends compte que t'es hyper dépendant de toutes les améliorations que tu vas trouver et c'est compliqué.
Tu peux pas vraiment bâtir quelque chose.
C'est compliqué de réagir, d'optimiser ces trucs. Tout va très vite. Et ensuite, une fois que t'es dans la bataille, mis à part le fait de bien placer ses unités, d'espérer qu'elles soient assez fortes pour résister aux assauts encore et encore, en fait, grosso modo, ton deck, une fois que le combat va être énormément dépendant de ton deck. Si t'as le bon deck, le combat, bah, ça va être tranquillou. C'est-à-dire, si t'as des monstres que t'as pu monter avec des armures, avec des choses comme ça, suffisamment bien, bah, ton combat, il va être tranquille et tu vas être un peu en mode spectateur. Et si ton deck, il est pas assez fort pour buter les ennemis en face, t'es mort de toute façon. C'est-à-dire, t'as peu de chances de réagir, t'as très peu de réactions possibles aux événements avec ce que t'as en main. Enfin, du coup, voilà, tu vas chercher à optimiser ton deck en priant pour que ton deck soit suffisamment fort pour passer le niveau suivant. Et t'es très dépendant du hasard. Et je sais pas, il y a un truc comme ça. Alors que des jeux comme Slay the Spire, encore une fois, t'as toujours cette sensation par les systèmes de combo, notamment dans Slay the Spire, que
tu peux réussir à te sortir
d'une mauvaise passe par un truc un peu ultimate, un hero call de derrière les fagots. Ici, t'es juste spectateur de ce qui t'arrive, en fait.
C'est ce qui fait la différence, je pense, entre les grands jeux et puis les jeux moyens ou les jeux qui peinent vraiment à se démarquer. Enfin, c'est ce genre de sensation que le joueur, à chaque partie, peut créer quelque chose, peut s'accaparer le jeu, peut prendre les commandes, effectivement, si tu te sens...
Exactement, c'est pour ça que je pense que Monster Train a eu des bons échos, parce que c'est vrai que les premières parties sont plutôt agréables, on découvre l'univers, on découvre les cartes, alors on débloque les cartes comme d'habitude avec ce genre de jeu, tu dois faire un nombre de runs incalculable pour avoir accès à toutes les cartes et à tout ce que peut proposer le jeu.
C'est les premières heures,
Là je trouve le système un peu lent, c'est-à-dire qu'on débloque difficilement parce qu'il faut débloquer les nouveaux clans, il va falloir débloquer les cartes de tous les clans, enfin c'est très très lent finalement comme système de déblocage. Mais bon, ça nous fait tenir. C'est un peu comme le Pirate Outlaw dont j'avais parlé, où on débloquait plus les personnages, mais on n'améliorait pas sa technique. Alors que Slay the Spire, on finit par débloquer vite les cartes, et puis après, c'est sa technique qu'on améliore, on s'améliore en tant que joueur, en fait.
Il est indéboulonnable, ce jeu, quand même.
Il est
à chaque fois que tu en parles, enfin, à chaque fois qu'il y a un titre qui vient où il a une proposition un petit peu alternative, plus facile pour justement trouver un peu un public, mais enfin, on sent vraiment qu'il a un poids colossal.
Oui, parce qu'il y a eu un vrai travail en termes de gameplay qui. Enfin, c'est de l'orfèvrerie, quoi. Mais c'est le côté quasiment. Enfin, ils étaient deux, je crois, sur Slay the Spire, mais ils ont fait un boulot à la Blizzard. C'est-à-dire, ils ont fait une finition d'équilibrage de choses comme ça, basées sur des statistiques, sur des retours joueurs, sur des trucs. Ils ont fait un boulot qui est monstrueux.
Donc, tu le conseilles toujours, en gros.
Moi, je le conseille toujours.
Pas mon style de jeu, mais à force de t'en entendre en parler, j'ai envie de m'y mettre. Donc, on prend celui-là et c'est tout, quoi, en gros. Il n'y a pas à chercher.
Exactement, on prend celui-là et c'est tout.
Et puis, on apprend, et quitte à ce qu'il y ait une difficulté.
Ou quelque part, il y a Iris and the Giant qui
prenait
le côté accessibilité, et donc c'était compliqué de le critiquer pour autre chose parce que il était accessible, et donc il était assez engageant et il était agréable à jouer.
C'est ce que je disais, il avait trouvé un public à lui, quoi. Il avait un peu un positionnement alternatif qui faisait qu'il avait une porte d'entrée.
Mais là, Monster Train, j'ai l'impression il peut séduire sur les premières heures de jeu, mais très très vite, on se retrouve spectateur. Enfin, moi, quand tu arrives à monter et à faire que tes unités sont hyper balèzes et que tu arrives à dédoubler tes unités hyper balèzes, et donc tu as un deck hyper fort et tu vas blinder tes étages et les unités adverses, elles ont aucune chance et le boss final, il a aucune chance. Et tu finis ton run tranquille et t'es content, et sinon sinon tu pleures et tu recommences. Enfin, c'est du coup être spectateur d'un rogue deck builder, moi ça me convient pas trop. Voilà. Donc ça s'appelle Monster Train. C'est pour l'instant c'est disponible seulement sur PC à une vingtaine d'euros, un peu plus pour ceux qui sont hyper accros, why not. Mais les autres, vous pouvez vous en passer. On va terminer cette émission avec un jeu. Alors, mais je crois que on en a parlé, mais je crois qu'on en a pas parlé depuis sa sortie.
J'ai pas trouvé de chronique. Moi, justement, quand je t'ai proposé, j'ai dit écoute, j'ai pas trouvé. Alors, j'ai vraiment loupé. Donc
non,
c'est
peut-être un jeu qui est sorti. C'est vrai qu'il avait eu des.
Je sais que tu as fait des papiers sur la boîte et tout ça, mais je n'ai pas retrouvé dans Silence on Joue de chronique du jeu. Donc,
mais je sais qu'il avait été en early access pendant assez longtemps. Ça avait été vraiment un produit parallèle, un jeu parallèle d'Amplitude. À côté de. C'était un spin-off de Endless. Endless Space et Endless Legends, où ils avaient commencé à vouloir faire un Tower Defense, et puis finalement c'est allé un peu plus loin que ça, et ça sort sur Switch.
PS4 et Switch, je crois.
PS4 et Switch ces derniers jours, on parle bien sûr de Dungeon of the Endless. Finalement, à part Ion Fury, le fil rouge, c'est quand même les rogues de cette émission.
C'est clair.
Mais des rogues à chaque fois différents, parce que c'est une façon de penser le rogue totalement différente. Et finalement, peut-être le plus abouti, en tout cas, il a eu le temps d'être abouti dans la sélection de jeux de cette semaine, c'est bien Dungeon of the Endless. Toi, tu as commencé par cette version console.
Mais à coup le pas, j'avoue que je l'ai découvert là sur console, donc je l'avais loupé sur PC. Voilà, c'est comme ça. Il n'était pas passé dans mon radar. J'en avais entendu parler évidemment, mais voilà, j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Donc là, j'ai vraiment plongé sur Switch et ça n'a pas été un coup de foudre. Je peux pas parler d'un coup de foudre parce que le jeu, il faut persévérer, il faut s'accrocher. C'est vrai qu'il a, il a un visuel, il a une musique, il a un style vraiment qui est super charmant. Enfin, c'est difficile de pas flasher dessus, mais c'est vrai qu'en termes de gameplay, je trouve qu'on n'est pas forcément beaucoup accompagné au début. Il faut pas mal se débrouiller par soi-même. Moi, en plus, ce sont des genres qui sont pas dans mes petits papiers. Hein. On parle d'un mix gestion, tower defense, qui est pas du tout mon style, et roguelike. Globalement, sur le papier, c'était pas un jeu pour moi.
Exploration de donjon.
Exploration de donjon, évidemment. Ouais. Et c'est là où il fait très fort, c'est que pour moi, il dépasse, comme on dit en anglais, il dépasse la somme de ses parts. En fait, c'est un jeu qui réussit à transcender cette espèce de recette de titres un peu, voilà, qui sont différents, avec des compensantes radicalement différentes. C'est une sorte de métissage comme ça de jeu, et ça fonctionne. Parce que moi qui suis pas du tout accro au tower defense, j'ai jamais été vraiment accro à ce genre de jeu. Bah là, je trouve que ça s'imbrique, comme tu dis, dans un système d'exploration de donjons, on va dire, de décors, qui fait que t'accroches et que tu y reviens. Pour situer rapidement le pitch, on incarne au début une équipe de deux personnages qu'on choisit, qui se réveille d'un crash de vaisseau spatial et qui va devoir explorer, je crois, 12 ou 13 donjons en protégeant un cristal qui est une source d'énergie qu'on va mettre à profit pour avancer dans les niveaux. La menace, elle vient de monstres qui hantent les endroits, des endroits générés aléatoirement. Donc, on va découvrir les pièces peu à peu, comme un jeu de plateau où on découvre comme ça les endroits qui sont générés au hasard à chaque partie. Donc, on flippe vraiment à chaque ouverture de porte. C'est le principe du jeu.
Sachant qu'il y a plein de petites trouvailles comme ça qui sont une richesse impressionnante. Et c'est cette trouvaille, notamment, que l'ouverture de porte correspond à un tour.
Exactement.
C'est un faux jeu en tour par tour temps réel.
Exactement, c'est caché, c'est un peu transparent, ça que c'est pas évident. On rappelle, on ne dirige pas nos personnages, hein, on dirige par cellule sur console les actions d'un ou des deux personnages, en tout cas au début. Ouvrir une porte à droite, à gauche, selon où on va faire, et qu'est-ce qu'on va faire. Effectivement, c'est un tour par tour déguisé, parce que l'ouverture de porte va en général nous permettre de trouver des ressources qu'on va emmagasiner. Ce qu'il faut savoir, c'est que les créatures, les ennemis naissent dans le noir, en fait.
C'est la subtilité, c'est-à-dire que l'ouverture de porte, ça va être de découvrir une nouvelle pièce. Donc, bon, il va falloir nettoyer les ennemis qui sont dans cette pièce-là et avoir accès à des nouvelles ressources.
Alimenter éventuellement.
Et sauf que l'ouverture de porte, dans toutes les pièces qui sont restées dans le noir, c'est-à-dire que ton cristal te permet d'alimenter un certain nombre de pièces, et alors que dans les pièces
limitées,
illuminées, entre guillemets, les monstres ne peuvent pas apparaître, mais dans toutes les pièces que tu as visitées et qui sont dans le noir, et à chaque tour, les monstres vont popper dans cette pièce, et à partir de ces pièces dans le noir, ils vont chercher à atteindre le cristal. Et donc, et à toi de créer des défenses, des tourelles, des trucs comme ça, c'est l'aspect tower defense du truc, ou mettre tes héros ou interposer avec tes héros, donc de gérer comme ça ces afflux de monstres à chaque nouvelle pièce ouverte. Et c'est là où c'est super malin,
Ça marche super bien. Ouais. Chaque partie, en fait, chaque séquence, en gros, elle est en deux parties. Une première partie, exploration avec tes personnages, c'est trouver la porte de sortie vers le niveau suivant. Donc, on explore, c'est là où on ouvre les portes, on commence à préparer l'endroit, etc. On trouve, au bout d'un moment, alors on peut galérer parce qu'on peut se tromper de chemin, on peut tâtonner, donc ouvrir des portes qui vont devenir dangereuses à terme. Ça, c'est le grand danger. On trouve la porte de sortie, on revient en arrière en général, et là, on prépare le fameux transport du cristal, et c'est là que dès qu'on le prend en main, les monstres sortent des salles restées dans le noir, et c'est là où vraiment où c'est important de préparer. C'est là où je parle vraiment d'une fusion. C'est un jeu fusion où le côté tower defense a vraiment été intégré à l'exploration. C'est là où on est obligé de préparer son chemin pour repartir vers la sortie, pour accompagner le cristal. Et c'est là où il faut évidemment préparer ces androïdes de protection, donc comme dans un tower defense, préparer ses armes, préparer ses personnages, bien penser à les équiper. C'est un jeu impitoyable. Vraiment, je trouve que la difficulté, elle est retors. C'est pour ça qu'il faut vraiment... Je pense que les débuts, alors sortis comme je disais, du visuel et du son, la musique est fabuleuse. Enfin, il a vraiment un style, il est très racé ce jeu, il a vraiment un style, il est très stylé. Sorti de ce côté charmant, enfin, il est impitoyable. Donc, je trouve qu'on n'est pas. Le didacticiel, je l'ai trouvé un peu nébuleux. Donc, moi, j'ai vraiment beaucoup plus appris en regardant des YouTubers, en regardant des gens jouer. C'est là où vraiment tu vois les mécanismes. C'est vraiment comme ça que tu peux voir. Tu trouves vraiment des tips pour comment préparer tes personnages, comment gérer ton fameux. Cette séquence de stress d'embarquer le cristal vers la sortie. C'est que ça se prépare. Il faut vraiment préparer son chemin et gérer toujours. Moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est ce côté. Et ça se fait de façon intuitive. C'est gérer ce fameux ratio risque et potentialité d'enrichissement, d'ouvrir une porte. Est-ce que je vais l'ouvrir parce que ça peut m'amener des choses? Est-ce que je prends le risque de continuer à explorer des salles quand j'ai trouvé la sortie? Mais ça vaut peut-être le coup quand même d'ouvrir des portes pour continuer à looter des ressources. T'as pas mal de décisions comme ça qui se font naturellement. Et puis évidemment, au fil des niveaux, bah, tu vas rencontrer d'autres personnages que tu peux faire rejoindre, qui vont rejoindre l'équipe éventuellement. Tu peux les faire rejoindre. Les recruter et enfin voilà, je trouve qu'il est.
Mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que c'est un de ces jeux-là et c'est des jeux quand même qui ça montre aussi une profondeur. Les jeux où comme enfin moi les derniers jeux qui m'ont fait ça, bon il y a eu Slay the Spire dont j'ai déjà parlé, mais où j'ai appris en regardant des streamers, des youtubeurs et tout ça qui allaient très loin. Enfin il y a un côté compétitif, solo compétitif, c'est-à-dire que c'est pas un compétitif multijoueur, mais t'es compétitif contre le jeu. Il y avait le Oxygen Not Include de Clay qui est sorti l'été dernier, donc l'été 2019. Et bah franchement moi sans les streamers alors on en avait pas parlé dans Silence on joue parce que c'était un jeu de l'été, il avait pas fait partie de notre rattrapage, mais c'était un de ces jeux extrêmement complets, enfin qui ont une complexité un peu foisonnante, mais qui est toujours qui est toujours là pour alimenter un gameplay, alimenter un plaisir de jeu. C'est une complexité qui est là ça pour le plaisir du joueur, quoi.
De persévérer vraiment.
Mais c'est vrai que c'est aussi des jeux, c'est compliqué de s'y mettre. Or, sans être aidé par un streamer, un youtubeur.
Je conseille de le découvrir vraiment. C'est un jeu stupéfiant. Enfin, moi, je suis vraiment accro et je trouve qu'il est super addictif. Ça me rappelle Dead Cells. Le choc Dead Cells quand j'avais découvert aussi. Tu vois, où pareil, t'avais un gameplay qu'il fallait maîtriser, mais une fois que tu commençais vraiment à jouer, pareil, tu apprenais. Enfin, tu sentais une richesse. Et là, c'est pareil. Enfin, c'est foisonnant. Et moi, chapeau de me faire jouer à Tower Defense, me faire apprécier ces mécaniques dont je ne raffole pas. Mais là, tout ça est tellement bien briqué dans une expérience que, pour moi, c'est une expérience totale qui mixe tout ça. T'as même de l'histoire. C'est pas mal écrit en plus. T'as plein de petites choses à lire sur les. T'as un vrai lore. Tu sens. Alors moi, je connais pas bien Endless Space. Hein. Je sais pas comment ça s'intègre bien dans tout ça, dans cet univers foisonnant créé par Amplitude. Mais en tout cas, le jeu lui-même se suffit énormément. Tu sens que c'est foisonnant, que tu as beaucoup de choses à découvrir. Et c'est d'une richesse folle, quoi. Mais il faut persévérer. Je pense que vraiment, les premières heures passées, j'adore le pixel art, le style. Un jeu où tu peux incarner un Carlin ne peut pas être mauvais. Enfin, il faut le dire. Hein, tu as un Carlin parmi les personnages principaux. Ça ne peut pas être mauvais.
On est sur du pixel, mais on est sur du design. Enfin, et sur de l'écriture. Chaque personnage a une bio. C'est vachement pensé. Enfin, c'est vachement travaillé jusqu'en dans les moindres détails. C'est là où c'est un vrai plaisir aussi de découvrir tout le boulot engagé par les développeurs. C'est un vrai bonheur, ce Dungeon of the Endless. Ça fait des années et des années que j'y ai pas joué, et même quand on m'en a parlé, j'avais du mal à me souvenir de reparler comme ça, ça me donne envie vraiment de m'y remettre. Monster Train, j'ai encore un peu de temps,
vraiment ce côté chapeau bas à l'équipe qui vraiment réussit à intégrer pas mal de composantes complexes, et finalement en t'y mettant, il faut prendre sur soi, il faut persévérer, mais déjà le jeu il a ce cachet, il a ce truc qui t'embarque. Les musiques sont vraiment, encore une fois je leur dis, mais elles sont planantes, elles sont géniales, enfin vraiment. Et t'apprends, il y a un côté comme dans tous les rogues, tu prends sur toi, tu recommences, et puis plus tu rejoues, plus tu maîtrises, et plus tu commences à avoir du répondant face au jeu, et c'est là où tu prends ton pied, parce que vraiment, je trouve que l'exploration, c'est très difficile, mais c'est fascinant. Voilà, c'est encore un de ces jeux, que je découvre sur le tard, et c'est vraiment une révélation pour moi. Vraiment, Chapeau. Donc Amplitude, donc studio de Sega, hein, qui est passé chez Sega depuis quelques années
et qui,
maintenant.
Et qui bosse, on l'a déjà dit, hein, sur Humankind, leur énormous 4X. Est-ce qu'ils vont réussir à aller tabasser le maître civilisation sur son terrain? C'est l'ambition, en tout cas. Hein. C'est l'ambition. Hein, ils ont...
C'est comme les pros du 4X, hein, ils sont reconnus comme ça. Moi, c'est pas mon truc, mais je me dis, a priori, ça, c'est un jeu qu'ils ont fait un peu en récréation, comme un spin-off léger. Quand tu vois la richesse du truc, j'ose même pas imaginer leurs jeux principaux, quoi. C'est dans d'autres genres, évidemment. C'est vraiment impressionnant, quoi. Alors, c'est un jeu qui a évolué, hein. Il a, comme tu dis, il a 6 ans maintenant, donc je pense qu'il a aussi pas mal été enrichi sur le temps. Là, je crois que sur la version donc console, on a, je crois qu'il est vendu une vingtaine d'euros. Il y a pas mal de contenus additionnels aussi qui ont été ajoutés au fur et à mesure sur PC. Côté gameplay, je trouve que ça marche très très bien. Alors moi, j'ai joué à la manette. J'ai pas trop. On peut y jouer en tactile sur Switch. Bon, j'ai joué plutôt à la manette. Rien à dire. Enfin, je trouve que c'est assez limpide.
On peut toujours y jouer sur PC. Hein. C'est 12 euros sur Steam.
Ouais, franchement, 12 euros quand tu vois
Non, c'est vraiment. Il a pas vieilli et c'est vraiment une vraie référence, Dungeon of Souls.
C'est comme Dead Cells, hein, on plonge dedans et c'est. Ouais.
Et ben c'est fini pour cette semaine pour le jeu vidéo et cher Patrick, moi je suis en galère, hein, je t'avoue, je sais toujours pas de quoi je vais parler. Et pendant que tu parles, je vais réfléchir. Mais tu vas tricher un peu. Et quand tu ne joues pas, tu fais quoi?
Alors allez, je vais tricher un peu. Quand je ne joue pas, j'écris sur le jeu vidéo et je regarde notamment des interviews sur le jeu vidéo. Je me documente pas mal. Et là, ça fait plusieurs vidéos que je poste sur les réseaux sociaux parce que je les trouve fascinantes. C'est le site Ars Technica qui a publié des vidéos d'interviews de grands développeurs de jeux. Ça s'appelle War Stories. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu as t'as deux formats. En fait, t'as des formats de 25 minutes où tu as des grandes pointures du jeu vidéo. Alors, je vais citer, moi, il y en a trois vraiment que j'ai adoré. Tu as Lorne Lanning, donc Lorne Lanning, c'est Oddworld, Sam Lake de Remedy, et puis Glenn Schofield, c'est le créateur de Dead Space. Alors, ces gens-là, en fait, sont interviewés sur 25 minutes sur. Donc dans cette catégorie War Stories, sur la façon dont ils ont créé leur jeu, les galères qu'ils ont rencontrées et comment ils ont dépassé leurs problèmes. Et c'est génial d'entendre ces gens-là parler de leurs problèmes, de comment, je pense notamment à Sam Lake, hein, lui, il parle beaucoup de, c'est focalisé sur Alan Wake, le développement problématique d'Alan Wake qui avait été pensé comme un monde ouvert à la base, qui a dû être retaillé complètement. Et c'est fascinant parce qu'il t'explique que eux ont ce genre monde ouvert, mais que finalement ils ont fait un jeu plus linéaire. Donc voilà, on rentre dans les cuisines de développement, c'est assez fascinant. Et donc ça, c'est le format standard 25 minutes. Et ils ont la super idée pour les curieux de publier aussi des versions longues des interviews qui sont là sur des formats de 1h30, 2h. Je crois que Lorne Lanning, on n'est pas loin de 3h. Et là, tu as du très long format où tu as Lorne Lanning qui parle de Oddworld, de comment il a pensé le jeu, comment il a les galères qu'il a rencontrées, etc. Bon, c'est du régal et vraiment je recommande. C'est vraiment intéressant, même Dead Space, hein, le créateur de Dead Space qui te parle de ses sources d'inspiration. Il parle Event Horizon, ce film que j'aime beaucoup des années 90. Il te parle des problèmes sur justement comment ils ont pensé le jeu, comment ils ont voulu créer la peur dans un médium interactif, comment ils ont galéré sur ce, quand tu connais un peu Dead Space, sur la manière de, tu sais, de découper les ennemis. Enfin, c'est ce qui a vraiment fait la signature. Bon, c'est fascinant, vraiment, allez voir, elles sont sur YouTube, hein, War Stories, Ars Technica, c'est vraiment du nectar. C'est en VO, on peut mettre des sous-titres. Bon, avec un petit niveau d'anglais, ça vaut vraiment le détour. Vraiment, je recommande, c'est passionnant.
Eh ben, écoute, j'irai voir. T'as posté ça sur ton Twitter, hein, notamment.
Ouais, à chaque fois, je les regarde et je les poste parce que je me dis, il faut les regarder. Elles sont trop bien, ces vidéos, vraiment.
Allez, bah si, ce que j'ai fait récemment, alors c'est assez rigolo, c'est un peu un retour en arrière, mais pas sur le jeu vidéo. Mais Arthur, donc mon fils, a profité du confinement pour lire beaucoup et notamment en fait, il s'est mis à la BD et donc j'ai récupéré. Ah. Enfin, on s'est arrangé pour récupérer. Évidemment, il y a les Schtroumpfs, il y a Boule et Bill et tout ça qui y sont. Et puis évidemment, j'ai mis dans les mains Gaston Lagaffe qui l'aime beaucoup et donc c'est vraiment. Alors c'est rigolo parce que j'ai relu avec lui et indépendamment, hein, enfin voilà pas mal de Gaston Lagaffe et il y a un côté souvenir où en fait t'as le souvenir de ton rire de l'époque qui revient. Enfin c'est je sais pas si c'est très compréhensible ce que je dis, mais c'est il y a des blagues où t'as ce souvenir de comment tu trouvais ça drôle à l'époque quand t'étais enfant et parce que t'as un humour très innocent dans Gaston Lagaffe, t'as des gags très classiques mais qui ont ce génie et puis il y a le dessin de Franquin qui est absolument exceptionnel, donc c'est ce dynamisme, ouais. cette mobilité comme ça qui est folle.
Mais et Arthur vraiment, ça l'a fait rire du coup. Ça l'a fait rire
sans
regard nostalgique.
Il rigole beaucoup.
Ça marche toujours.
Et en fait, et du coup aussi, je me suis repris. Enfin, j'ai relu aussi les Spirou et Fantasio de ma jeunesse, avec vraiment les Spirou et Fantasio que j'avais, parce que il en sortait beaucoup et je les avais pas tous évidemment quand j'étais gamin, mais moi il y avait le tout premier, il y a un sorcier à Champignac et puis ceux que j'avais eu un peu plus tard comme Spirou et les hommes bulles et il y a celui que j'ai pas encore relu mais que j'attends et tout ça parce que je sais que j'avais beaucoup aimé, c'était L'horloger de la comète, qui est donc, enfin voilà, c'est ça me permet de, enfin c'est assez marrant, c'est une lecture bizarre où on est vraiment sur l'aspect Madeleine, sauf que c'est des vraies œuvres intéressantes et à l'époque et maintenant parce que ça reste des œuvres atemporelles quoi, les Spirou avec Spirou et Fantasio et tout ça, et donc voilà, je replonge dans ces lectures là et c'est vraiment cool. Voilà, je vais pas vous faire l'offense de vous dire où vous pouvez trouver les Gaston Lagaffe et les Spirou et Fantasio, dans toutes les bonnes bibliothèques notamment. Voilà, et ben merci Patrick.
Bah merci à toi, c'était chouette.
Et puis on sera peut-être plus nombreux la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets. Ciao.
Ciao.